La haine en ligne, quand on la subit, ça fait un drôle d'effet. Il a fallu que j'attende presque 15 ans de réseaux sociaux pour que ça m'arrive. Bon, jusque-là, quand je m'étais fait insulter, je m'en étais toujours sorti. Soit par la diplomatie, ça marche dans la plupart des cas, il faut le noter. Soit en faisant semblant de pas voir. Le déni, c'est une activité que je pratique à merveille dans plein d'autres parties de ma vie et ça marche très bien aussi. Hein. Je crois n'avoir jamais insulté personne en retour. Pas du tout par amour de l'humanité, mais à cause d'une sorte de réflexe aristocratique qui rendrait certains propos indignes de moi. Or, je suis pas fier de ce réflexe, mais c'est comme ça. Et donc, un jour, je n'ai pas pu y échapper. Je m'en souviens, c'était un week-end de début d'été. J'avais chroniqué pour L'Obs, un classique de la littérature antiraciste américaine qui venait d'être traduit en français, « La fragilité blanche » de Robin DiAngelo. J'avais titré l'article « Le blanc, c'est être fragile ». Le déferlement a commencé très vite après la mise en ligne. Plein de comptes Twitter se sont adressés à moi pour me traiter de tous les noms. Me dire que j'étais un petit pédé honteux qui rêvait de se faire sodomiser par des grosses bites noires et des photos de moi ramassées dans les réseaux servaient de preuve. Ouais, avec ta gueule, tu m'étonnes que t'es fragile, mais t'inquiète, on va venir t'abîmer encore plus, on connaît ton adresse, etc., etc. Beaucoup de ces comptes comportaient un drapeau français dans leur description et étaient anonymes, mais pas tous. Aucun tweet ne commentait le fond de l'article, qui d'ailleurs n'était pas dithyrambique à propos du bouquin. Bon, de toute façon, il était en payant. Le titre et trois lignes suffisaient à trahir mon être profond hein, et mes intentions anti-blanches. À aucun moment, je me suis senti vraiment menacé. Ce qui était impressionnant, c'était la masse, le niveau de violence et le sentiment d'impuissance que cela générait. D'ailleurs, j'ai rien fait. J'ai répondu à personne, bloqué personne, signalé personne, et au bout de 48 heures, ça s'est calmé de soi-même.
Le code a changé.
Jamais donc je ne comparerai cette petite expérience au terrible shitstorm que certaines personnes subissent. Bon, néanmoins, j'en tire une leçon. L'expression anglaise de shitstorm est tout à fait appropriée pour décrire ce qu'on ressent dans ces moments-là. J'ai beau être d'un certain âge, assis socialement, et psychologiquement, je me suis senti recouvert de merde pendant 2 jours. C'est là, je crois, l'efficacité première de ce type de raid. On se sent sali, selon la très vieille expression française. Et être sali par des personnes inconnues qui font ça de loin, sans argument, sans aucune volonté de discuter, c'est très, très pénible. Même si c'est très minoritaire dans notre vie numérique, je comprends donc que certains en fassent un cheval de bataille. L'effet sur des personnes plus fragiles, plus jeunes, peut être désastreux, ça suffit à en faire un problème. Ce qui est intéressant, c'est de regarder les solutions qu'on trouve à ce problème et qu'on regroupe sous le terme de modération, des solutions d'ailleurs qui ne sont pas exclusives les unes des autres. Alors, certains en appellent à la loi, ce qui donne par exemple la loi Avia contre les contenus haineux sur Internet, qui a été votée en 2020. D'autres demandent aux plateformes de modérer les contenus qu'elles hébergent. Ce serait à Facebook, Twitter, YouTube, Twitch et autres encore de faire le ménage chez eux. Il y a aussi des solutions plus communautaires. Sur Twitch, par exemple, des modérateurs bénévoles s'organisent pour faire ce boulot par conviction. Et puis, d'autres font de la modération un business. C'est ce qui m'a intéressé quand, un peu par hasard, j'ai rencontré Majdi Toumi. Il travaille, Majdi, pour une boîte qui s'appelle Bodyguard, une start-up française créée il y a quelques années par un tout jeune type du nom de Charles Cohen. Bodyguard fait donc de la modération, et manifestement ça marche très bien, les clients se pressent, Bodyguard est en pleine croissance. Majdi en est en gros le directeur technique, et tout m'a intéressé dans la discussion qu'on a eue ensemble. Le fait que la haine en ligne puisse générer un business, la manière dont on s'y prend pour identifier des contenus haineux, linguistiquement par exemple c'est hyper compliqué, la manière aussi dont on règle la question de la liberté d'expression, parce que modérer c'est faire un tri entre ce qui est dissible et indicible, et que c'est extrêmement complexe. Et puis, la dépendance technique qu'on a vis-à-vis des réseaux sociaux quand on fait ce type de métier, bon, puis il y a plein d'autres problèmes aussi. Ce qui m'a intéressé encore plus, je crois, c'est que Majdi se posait beaucoup de questions. J'ai eu l'impression que plein de problèmes n'étaient pas encore résolus, et les problèmes non résolus, eh ben, ce sont les plus passionnants. Je lui ai donc demandé s'il était possible qu'on en rediscute, mais cette fois-ci avec Charles. Et voici qu'un après-midi, on s'est retrouvés dans un studio. Et la première question que j'ai posée à Charles Cohen, c'est d'où est partie l'envie de se lancer dans cette tâche titanesque.
C'était quoi, en 2017, ça devait être il y a à peu près 5 ans. À ce moment-là, je ne sais pas vraiment quoi faire de ma vie. J'ai juste un beau background technique dans le sens où j'avais commencé la programmation vers 10-11 ans. Donc, alors, je n'ai pas fait des algorithmes poussés à 10 ans, hein, c'était très basique au début, bien sûr. Mais c'est ce background technique couplé à la lecture d'un article en 2017 sur le suicide d'enfants uniquement liés au cyberharcèlement. Et je me dis, bon, bah, j'ai rien à faire de ma vie, je suis chez mes parents, je vais tenter de faire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait absolument rien à l'époque pour aider ces personnes-là.
Belle histoire, si j'ose dire. Là, je me dis, le type a 25 ans, il maîtrise, les investisseurs doivent adorer. Mais un truc me fait tiquer depuis le début. C'est le nom que Charles a choisi pour sa boîte, Bodyguard. Je lui demande l'intention que révèle ce nom.
C'est l'idée de que chacun ressorte une sorte de garde du corps virtuel pour le protéger des contenus haineux. Aucun rapport avec Whitney Houston, si c'est la question qui suit.
Ok, aucun rapport, mais quand même. Depuis que je sais que je vais faire cette interview, j'ai en tête la fin du film quand Whitney Houston fait arrêter l'avion pour retrouver son garde du corps sur le tarmac, le bras en écharpe. Voilà, on a entendu, c'est fait, on peut passer à autre chose. Donc, le choix de ce nom, Bodyguard, dit quelque chose de la manière dont Charles décide de s'y prendre. Ce qui l'intéresse, c'est de protéger des personnes. Donc, il a commencé par coder une application que chacun peut télécharger gratuitement. Je télécharge l'appli, je donne accès au compte que je veux protéger, mon profil Twitter, mon compte Facebook ou Instagram, ma chaîne YouTube ou Twitch, etc. Je règle mes critères, je peux demander à être plus ou moins protégé selon le type de contenu haineux. Il y a 10 catégories. Hein. Insultes, moqueries sur le physique, harcèlement moral et sexuel, racisme, homophobie, misogynie, menace de mort. Bon, pour chaque catégorie, je peux régler le curseur. Ensuite, je ferme l'application et elle travaille pour moi. Elle élimine les commentaires que je ne veux plus voir, me notifie les comptes agressifs pour qu'éventuellement, je les signale ou les bloque. Et aujourd'hui, une déclinaison payante. Mais dans tous les cas, oui, il y a quelque chose du garde du corps dans l'outil tel que le conçoit Charles. La question, c'est pourquoi s'y prendre comme ça ?
La tâche qui est probablement la plus dure dans la modération, c'est la protection d'un individu. Et donc être capable de protéger l'individu des contenus haineux qui lui sont destinés à lui personnellement et être capable de laisser tous les autres contenus qui sont haineux mais envers une personne tierce qui n'a aucun lien de parenté ou aucun lien avec la personne qu'on protège. Imaginons que Bodyguard protège Majdi. Si quelqu'un venait voir Majdi en disant « Majdi, tu as raison, Iron Man, c'est un connard », qu'on comprenne que c'est haineux certes, mais pas envers Majdi, la personne qu'on protège, envers Iron Man, qu'on ne protège pas et donc on laisse le contenu.
Deux choses très intéressantes là-dedans. Bon, d'abord, on comprend mieux l'idée du garde du corps. Le but de cette solution, c'est pas de faire la police, c'est pas de pacifier les relations numériques en général, c'est de faire de la garde rapprochée. On protège un individu. C'est une conception finalement assez pragmatique de la modération. Ensuite, il s'agit d'invisibiliser l'insulte au regard de la personne concernée. Mais bon, il n'empêche que l'insulte a été proférée, qu'il y a de la haine, et qu'il y en aura toujours. Là, deux questions. D'abord, est-ce qu'il n'est pas bon de constater la haine qu'on provoque, même si c'est pénible ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'étrange à être privé de cette confrontation à une réception qui existe et qui existera malgré tout ? Deuxième question. Bodyguard garantit à l'utilisateur la possibilité de voir ce qui a été bloqué. Et quand j'en ai discuté avec Majdi, il m'a dit quelque chose d'intéressant. Autant qu'il puisse le constater, les gens, quand ils commencent à utiliser Bodyguard, ont tendance à regarder les messages bloqués. Alors sans doute pour vérifier que le service fonctionne, mais aussi peut-être parce que c'est étrange justement de ne pas constater la haine qu'on provoque. Et puis, au bout d'un moment, il cesse de les regarder. Ça signifie qu'on peut résister à l'envie de constater la haine qu'on provoque, qu'on peut la laisser exister loin de soi. Bon, j'aurais pas imaginé ça. Alors maintenant, j'ai besoin de comprendre comment Charles et Majdi travaillent concrètement. Quels sont leurs outils ? Quelles sont les étapes du processus ?
Il y a une importance liée aux réseaux sociaux, c'est de faire ce qu'on appelle du pré-processing, c'est-à-dire être capable de traiter n'importe quel type de commentaire, peu importe s'il contient des fautes d'orthographe, des mots censurés avec des emojis, de la ponctuation, etc. Donc c'est la première étape. Okay. Après, c'est repérer dans la phrase les mots ou les groupes de mots potentiellement problématiques, agressifs. Une fois qu'on les a repérés, bah, on va automatiquement assimiler une classification.
Okay.
Donc insultes, moqueries sur le physique, menaces de mort, etc. Une sévérité, parce que t'es nul, c'est pas aussi sévère que quelque chose de plus violent. Et une fois qu'on a repéré ça, bah, l'idée c'est de faire la notion de contextualité pour comprendre à qui sont destinés ces groupes de mots problématiques. Et ensuite, avec toutes ces informations-là, bah, on va faire un petit mélange d'algorithmes, bah, on va prendre la décision de retirer ou non le commentaire de la plateforme.
Bon, étape importante, le pré-processing, il faudra qu'on y revienne, c'est assez mystérieux pour moi. Les deux étapes suivantes, je vois. Analyse textuelle, puis contextuelle, ok. Mais justement, cette étape, l'analyse contextuelle me pose question. Bon, je vais prendre un cas concret. J'interpelle en ligne un copain et je lui dis qu'il est vraiment con. Mais comme on peut le dire à un ami sans que ce soit insultant. Est-ce que la machine va retirer cette interpellation? Comment va-t-elle faire pour comprendre que dans ce contexte, ça n'est pas une insulte?
Si on est sur les grands réseaux sociaux, Facebook ou Twitter, on a dans l'information que la plateforme nous donne un lien qui peut y avoir entre un utilisateur et celui qui reçoit le message. Donc derrière, ça permet déjà de voir si une personne follow une autre personne, d'avoir déjà une information qui est assez importante.
Oui, mais le contexte, tu vois bien qu'il est changeant. C'est-à-dire que tu vois, tu peux tout à coup te disputer avec quelqu'un qui, ou quelqu'un qui te follow. Par exemple, je follow des gens que je déteste. Comment est-ce qu'à partir de ce lien-là, tu peux déduire le contexte d'un mot type une insulte?
On part du principe que bon, bah, si tu suis la personne et que cette personne se met à t'insulter, on part du principe que normalement vous êtes amis. Mais en effet, il y a des cas où ça ne fonctionne pas. Et ben, on peut imaginer ici une suite d'algorithmes, des algorithmes qu'on appelle de meta-learning, c'est-à-dire qu'ils vont prendre des métadonnées en paramètres, et ces métadonnées-là, ça peut être, bah, voilà, le nombre de contenus neutres échangés, positifs échangés, haineux échangés, et peut nous dire, bon, bah, j'estime que, étant donné que les deux personnes, généralement, se sont échangées à peu près 90% de contenus neutres, et que d'un coup, on a repéré une insulte, mais de faible sévérité, du style t'es con, on peut se laisser le doute et dire, bon, bah, on estime que ça va, ça passe. On va pas prendre une action extrêmement forte de bloquer la personne pour un t'es con, alors que les deux se parlent depuis 2 ans.
D'accord, donc les données disponibles, si elles sont bien prises en compte, peuvent déterminer assez finement le contexte d'un propos et même son évolution si on remonte dans le temps, ok. Autre problème quand même que je voudrais soumettre à Majdi et Charles. On le sait bien, les gens qui veulent faire du mal sont souvent malins et persévérants. Les gens malins et persévérants peuvent se rendre compte que les messages ou commentaires qu'ils adressent à quelqu'un ne provoquent aucune réaction, ils peuvent se rendre compte qu'ils sont invisibilisés ou même voir qu'ils sont bloqués. Surtout dans des communautés geeks où les gens sont au courant qu'il y a des outils automatiques de modération. Je demande donc à Majdi s'il leur arrive d'avoir affaire à ce type de contournement.
Un exemple tout simple, pour insulter arabe ou noir, il y avait la notion d'arbre ou de noix qui était rajoutée dans ce type de message.
Là, j'interromps Majdi. Un copain qui a une vie réticulaire assez fournie s'est retrouvé exactement dans cette situation. Suite à un tweet qui pouvait donner l'impression qu'il se moquait d'un youtubeur assez célèbre, il a vu apparaître dans sa timeline des messages qui en appelaient à abattre cet arbre. Le mot « arbre » étant, en l'occurrence, remplacé par l'émoji « arbre ». Alors, il n'a pas compris tout de suite. Mais il se trouve que cette personne a un nom arabe, et elle a fini par réaliser que l'émoji « arbre » était mis pour « arabe », ce qui permettait à ses interlocuteurs de proférer des menaces racistes sans être repérés par la modération de Twitter. Alors là, je me pose une question. On pourrait se demander à quoi sert une insulte qui n'est pas comprise par celui qui est insulté. Pour essayer de comprendre, je passe par une analogie dans le monde physique. On a tous assisté à des scènes très désagréables où des gens se moquent en groupe de quelqu'un qui ne comprend pas bien ce qu'on lui dit, parce que la personne ne parle pas la langue, par exemple. Là, on voit bien que l'insulte a d'autres fonctions que disqualifier ou blesser une personne en particulier. En l'occurrence, sa fonction, c'est de souder un groupe par une forme de connivence morbide qui se fout bien de la réception. Il s'agit de faire groupe sur la base d'un langage commun de référence partagée. Alors, ça paraît évident ce que je dis, mais c'est à garder en tête quand on est victime d'un shitstorm. On devient le support involontaire d'une coalition de circonstances qui, bien souvent, en fait, n'en a rien à foutre de nous. C'est pas moins désagréable à vivre, hein, mais ça permet de relativiser un peu. Bon, je reviens à Charles et Majdi. Donc, ils s'aperçoivent qu'il peut être fait un usage raciste des émojis arbre ou noix, par homophonie cette fois-ci avec le mot noir. Ils intègrent tout de suite ces émojis dans leur base de données de signes problématiques. Mais alors, dès lors, comment faire pour que le programme distingue quand l'émoji désigne un vrai arbre et quand il dénigre ou insulte ou menace une personne arabe? On intègre l'émoji et puis quoi?
L'emoji arbre lié à une certaine contextualité. C'est-à-dire voilà. que pour qu'il fonctionne, il faut qu'il ait des suites de mots avant ou après, il soit posté sous un certain type de contexte, certaines personnes, un certain profil, etc. Parce que sinon, ça crée énormément ce qu'on appelle de faux positifs, c'est-à-dire des contenus détectés comme haineux alors qu'ils ne le sont absolument pas.
Chaque mot, chaque emoji qui va être rajouté, c'est tout un ensemble de règles et de liens qu'il peut y avoir entre ces nouveaux mots et tout l'historique que l'on peut avoir, ou tout le vocabulaire français, anglais, espagnol, peu importe. Donc c'est pas uniquement un ajout simple de détection.
Ok, je comprends. Il ne s'agit pas d'ajouter un signe dans une base de données, mais de le relier à d'autres données qui l'intègrent à un contexte. Il ne faut pas, évidemment, que l'emoji arbre que m'envoie un copain écolo soit masqué. Mais alors, ça pose une autre question. Est-ce que l'identité raciale, par exemple, de la personne détentrice du compte peut tenir lieu de paramètres ? Autrement dit, est-ce que la machine peut tenir compte du fait que la personne à protéger est un non-arabe et du coup se montrer plus attentive quand apparaît l'emoji arbre ? Alors, pour l'instant, ça n'est pas le cas. Mais quand j'ai posé la question à Majdi et Charles, ils ont dit qu'ils y réfléchissaient, que c'était une possibilité à l'étude. Ça paraît assez logique d'augmenter la sensibilité des programmes selon les caractéristiques de la personne à protéger, je sais pas, femme, personne racisée, etc. En même temps, ça pose plein de questions pratiques et éthiques. Encore donc un problème qui n'est pas tranché. Mais bon, cette histoire d'arbre et de noix me semble raconter une chose, l'inventivité en matière d'insultes. Je demande à Majdi et Charles s'ils constatent aussi cette inventivité.
Aujourd'hui, des commentaires qui sont homophobes, on met un P majuscule avec un D.
Un P majuscule avec un D. Mais l'emoji P parking et l'emoji D à jouer.
Ah,
elle est là, la nuance.
Ok, d'accord.
T'as l'utilisation d'emoji entre les mots problématiques du style tu dis plus show me your boobs en mettant et en écrivant
attends,
boobs.
Tu mets plus quoi, pardon ?
Show me your boobs, ah, tu vois, on t'écris plus le mot boobs en B2OBS, tu vois, tu vas mettre B, deux emojis qui sembleront, du style
des yeux,
voilà, et tu mets BS après, tu vois. Donc il y a une recherche constante de détourner les filtres en place, donc ça veut dire ajouter de la ponctuation entre les mots. T'as le langage lit, c'est-à-dire remplacer les lettres par des chiffres, tu dis plus connard, tu mets un zéro à la place du O, tu mets un emoji à l'intérieur, tu mets un astérix, tu utilises des polices d'écriture qui ne sont pas latines, en fait, mais qui ressemble à la lettre dans la langue latine. Donc ça, c'est constant, ça, c'est tous les jours.
Ok, mais ça pose une nouvelle question. Comment font les logiciels pour s'y retrouver là-dedans ? Dans les messages que doivent analyser les programmes, il y a les mots mal orthographiés, il y a des abréviations, il y a des marques de ponctuation, des emojis qui viennent se glisser entre deux lettres. Alors j'imagine mal comment les pauvres programmes arrivent à y voir clair là-dedans. C'est, je crois, ce dont parlait Charles tout à l'heure quand il citait le pré-processing. Alors, je lui demande de préciser.
On n'est pas sur du NLP, du Natural Language Processing, on est maintenant sur du Unnatural Language Processing.
C'est-à-dire, c'est quoi la différence ?
La différence, c'est que le Natural Language Processing, il est là pour traiter un langage parfait. C'est utilisé pour de la traduction, pour du résumé des documents, mais les documents dont on parle, c'est rarement des choses avec énormément de fautes d'orthographe. Alors que le ULP, le Unnatural Language Processing, c'est là pour traiter réellement le langage non naturel. Et le langage non naturel, c'est tout ce qui va être langage SMS, tout ce qui va être emoji, etc.
Intéressant. Je connaissais pas le UNLP. J'ai cherché un peu et je suis tombé soit sur des articles académiques auxquels je comprenais absolument rien, soit sur des sites commerciaux qui vantaient leurs solutions pour, comme l'expliquait Charles, réussir à transformer un amas de signes épars, de la ponctuation, des lettres non latines, des emojis, etc., en un équivalent linguistique compréhensible.
Emojis, acronyms, capitals and lowercase mixed together, added punctuation, vertical chat and more. Just imagine all the variations of a single word that can be created using unnatural language.
Déjà que le traitement automatique des langues, c'est compliqué, mais alors j'ose à peine imaginer ce que doit être le traitement automatique des langues non naturelles. À ce point de la discussion, je commence à avoir une idée de la complexité du travail de modération tel que le conçoivent Charles et Majdi, c'est-à-dire comme une protection de l'individu. Mais il y a un truc que je comprends pas. Même s'il est très compliqué de faire ce travail, pourquoi les grandes plateformes n'y arrivent pas ? Enfin, je veux bien que Charles, Majdi et tous les gens qui bossent chez Bodyguard soient très très forts. Enfin, quand même, même si les quantités de données à traiter sont infiniment supérieures pour un Facebook, un Twitter ou un YouTube, ces réseaux sociaux ont des milliers d'ingénieurs qui sont hyper forts, ils ont des moyens financiers et techniques qui sont extraordinaires, pourquoi n'arrivent-ils pas à modérer mieux qu'ils le font ? Pourquoi il faut que ce soit d'autres qui s'en chargent ?
Le cœur de métier de Facebook ou Twitter, c'est de créer du contenu et donc d'engager les personnes à créer du contenu. Donc même si derrière, l'actualité, les gouvernements leur imposent de travailler sur de la modération, c'est pas réellement une priorité. Ils ont beaucoup de barrières en interne pour arriver à le faire.
Ouais, il est gentil, moi je dis. Ce qu'ont montré les Facebook Leaks, par exemple, de l'année dernière, c'est que le réseau social voulait surtout que la discussion ait lieu. Alors, un exemple frappant parmi d'autres, celui des célébrités. Des documents internes adressés aux modérateurs de Facebook montraient qu'ils étaient incités à laisser passer des messages super agressifs à l'égard des personnes célèbres, y compris des menaces de mort, sous prétexte qu'il fallait, je cite, « permettre la discussion qui souvent comporte des commentaires critiques à l'égard de personnes apparaissant dans l'actualité ». Les mêmes fuites montraient que la modération devait être plus ferme quand la personne visée était inconnue. Alors on voit bien la logique de Facebook, hein. Si on peut plus insulter les célébrités, mais qu'est-ce qu'on va se raconter ? L'angoisse de Facebook, c'est le tarissement des conversations. C'est que les gens aillent discuter ailleurs et donc insulter ailleurs. Donc les barrières en interne dont parle assez poliment Majdi, c'est juste une divergence entre des objectifs commerciaux et des objectifs éthiques. Et en général, on sait lesquels l'emportent, hein. Mais on ne peut pas dire non plus que les grands réseaux sociaux ne fassent rien. Et notamment, on sait qu'ils investissent dans des outils de modération à base de machine learning, ils le répètent souvent. Mais alors, pourquoi, eu égard à leurs moyens, et même en tenant compte des barrières en interne, pourquoi ça ne marche pas mieux ?
Le but d'un modèle de machine learning, c'est d'être entraîné. Donc c'est un programme qui va être entraîné à détecter des insultes, et ensuite de pouvoir analyser un texte et lui dire « Ok, ça c'est une insulte, ça c'est de l'homophobie, ça c'est du racisme. » Et en fait, ça demande beaucoup de choses, ça demande beaucoup de données, ça demande du temps. Pour le mettre en production et mettre en ligne ce type de service, c'est un laps de temps qui est assez long.
Le temps de collecter les nouvelles données, parce qu'en fait, c'est assez basique comme technologie dans le sens où c'est simplement statistique. Tu vas regrouper des commentaires haineux dans un dossier, ouais. Tu vas l'envoyer dans la machine. La machine, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va ouvrir chacun des commentaires, ouais. Elle va voir chacun des mots et elle va comprendre, bon bah ok, dans le groupe des commentaires haineux, j'ai souvent vu le mot connard. Dans le groupe des commentaires non haineux, j'ai souvent vu le mot bonjour. Bon bah ok, statistiquement, j'en déduis que ça. Bah le souci, c'est que si t'as un nouveau mot ou si t'as une nouvelle insulte qui apparaît, si elle ne l'a jamais vu dans le groupe des commentaires haineux, elle va pas l'inventer par miracle. Il va falloir recollecter énormément de commentaires haineux avec ces nouvelles tendances, ces nouveaux mots, les réentraîner, les remettre dans ton dataset, enfin dans ton dossier des commentaires haineux, réentraîner le modèle, le tester, etc. etc. Ce qui fait que généralement, t'as un décalage entre 3 et 6 mois. C'est pour ça que t'as cette impression qu'il n'y a jamais rien qui avance. Mais en fait, si les réseaux sociaux, ils ont des solutions en place, ils ont des modèles de machine learning en place, mais ils sont juste 6 mois constamment en retard.
Passionnant ça. Je n'avais pas idée que le facteur temps, le temps d'apprentissage en l'occurrence, comptait à ce point. À ça, il faudrait évidemment ajouter la question des langues, parce que les données à disposition pour entraîner les programmes sont évidemment pas aussi nombreuses dans toutes les langues, et ça impacte forcément la précision de la détection. Mais avec le machine learning se pose un autre problème que Charles explique très bien.
C'est des technologies qui font entre 20 et 40% de faux positifs. Et donc, étant donné que t'es en Facebook, tu peux pas te permettre de faire 40% de faux positifs et de supprimer des commentaires pour rien et de bannir des gens pour rien, et ben en fait, tu utilises ce genre de technologie pour flaguer, pour mettre un petit drapeau sur les contenus potentiellement problématiques. Une fois que tu l'as mis un drapeau dessus, bah, tu l'envoies à un modérateur humain et c'est le modérateur humain qui confirme. Ils ont utilisé ces modèles de machine learning pour avoir beaucoup moins de contenus à traiter. Mais ils en ont quand même un sacré paquet, et donc du coup, ça met toujours un petit peu de temps.
Ça met du temps, donc, et ça pose encore un autre problème. Celui des humains qui vont être chargés de décider ce qu'il faut faire des contenus identifiés par les algorithmes. Bon, rien que pour Facebook, il y a des milliers de gens de par le monde qui sont mal payés par des sous-traitants pour décider si ces messages doivent ou non rester sur la plateforme. La vie de ces gens a été largement documentée ces dernières années. Il y a 2 ans, par exemple, une enquête diffusée par France Télé racontait le travail d'un de ses modérateurs. Hormis des conditions exécrables, 20 minutes pour déjeuner, pas de pause pipi, etc., il racontait ce qu'il voyait.
Des meurtres, des suicides, des viols, des violences conjugales, du racisme, de la discrimination, du bully, tout. Tout ce qui va... Moi, le pire, je dirais... Ouais, je dirais peut-être les décapitations et le viol de bébé. Ouais, ça, c'est peut-être les choses les plus fortes.
Tout ça, évidemment, sans aucun soutien psychologique. Alors, certes, Facebook n'est pas responsable de ce que les gens veulent partager sur sa plateforme. En revanche, Facebook est responsable de la manière dont se passe la modération et du fait de la confier en bout de chaîne à des humains maltraités et pas protégés. En fait, dans la modération comme dans le reste, c'est l'articulation homme-machine qui est essentielle. Et chez Bodyguard, l'articulation se fait dans l'autre sens que chez Facebook. Ce sont des programmes qui prennent seuls la décision d'effacer un commentaire. Là où intervient l'humain, c'est en amont par une veille qui permet d'affiner les données mises à disposition des programmes. Mais l'humain intervient aussi en aval par une supervision constante des décisions qui sont prises par les programmes. Et les outils développés par les gros acteurs alors. Qu'est-ce qu'en pensent Majdi et Charles ?
On le voit avec des technologies qui sont très utilisées comme celle de Google actuellement. Elles sont beaucoup plus strictes pour éviter justement de faire passer des messages qui ne devraient pas. Si tu m'as raconté une blague et ta vanne elle m'a tué, c'est haineux à plus de 85% pour Google.
Alors, ta blague elle m'a tué, bon bah ça va être retiré quand tu vas poster ça sur YouTube par exemple. Donc là on est clairement dans de la censure.
Censure, le mot est peut-être un peu fort. Mais je comprends le raisonnement. Toute une partie des commentaires ou messages ne vont pas être publiés alors même qu'ils ne dérogent pas aux règles ni à la loi, juste parce qu'ils sont mal compris. Je sais pas si j'appellerais ça de la censure, mais bon, je vois bien l'idée. Donc, ça c'est un problème pour les réseaux sociaux. Trouver des outils de modération adéquats, pour ne pas tomber donc dans une conversation bêtement modérée par une machine qui ne comprend pas bien ce qui se passe. Mais une entreprise comme Bodyguard se heurte à un autre problème. Il y a des gens qui utilisent gratuitement Bodyguard, n'importe qui peut le faire, hein. Mais ce qui rapporte de l'argent à l'entreprise, c'est de protéger des gens ou des organisations qui payent pour avoir un service plus adapté et pour avoir accès à des métriques beaucoup plus fines. Parmi ces organisations, il y a des entreprises en tout genre, il y a des institutions sportives, il y a des journaux qui veulent modérer les commentaires sous les articles ou même protéger leurs journalistes sur les réseaux sociaux. Et il y a aussi des entreprises tout à fait classiques. Alors, bien sûr, ces clients veulent être protégés de la haine en ligne, mais ils peuvent aussi avoir d'autres exigences. Qu'on ne nuise pas à leur image, par exemple, ce qui est très différent. Et donc, je pose frontalement la question à Charles. Imaginons qu'une entreprise cliente vous demande de retirer les commentaires qui disent que ces produits sont nuls. Qu'est-ce que vous faites ?
Bah ça, pour le moment, on le garde.
D'accord. Okay.
Parce qu'on a une ligne directrice et que nous, pour le moment, on se concentre sur la toxicité.
Ok. Mais c'est un critère compliqué, la toxicité, quand on parle d'une organisation, et non plus d'une personne. Et parfois même, ce qui est toxique pour une entreprise est d'intérêt général. Bref, je suis pas sûr que ce soit si simple que ça à gérer au quotidien. La limite entre protection et gestion de l'image s'éténue quand même. Et puis, une autre catégorie de problèmes se pose. Si on se donne pour mission de protéger des gens, est-ce qu'on protège tout le monde ? Je prends l'exemple de la politique. Charles dit souvent que son entreprise est apolitique. Ok. Mais que faire si, bon là je prends un exemple facile, hein, que faire si Éric Zemmour fait la demande à Bodyguard d'être protégé ?
Il y a deux sujets ici. Il y a le sujet de est-ce qu'on protège les gens qui ont été condamnés par la justice ? Pour moi, ce n'est plus à moi de répondre à cette question, ce n'est plus à moi de prendre la décision et ce n'est plus à l'équipe Bodyguard de prendre la décision. Ça doit être un board éthique, un panel éthique composé de gens de tout horizon, hein, que ce soit okay. Extrême droite, extrême gauche, de tout horizon, de répondre à cette question-là. Après, il y a la question, pour moi, Bodyguard devrait protéger tous les partis politiques. Je suis partisan de dire que la haine en ligne entraîne une autocensure extrêmement grave. C'est-à-dire que...
Moins à des endroits qu'à d'autres. Hein.
Moins à des endroits qu'à d'autres, mais la haine en ligne entraîne de l'autocensure et donc des gens n'osent plus s'exprimer, n'osent plus parler de peur de se faire insulter. Et quand on voit que ça arrive à certains partis politiques et certains élus, on se dit que c'est extrêmement grave parce qu'en fait, là, c'est la démocratie qui est attaquée.
Intéressant, ça. Se pose à nouveau la question de la liberté d'expression, mais à l'envers. Tout à l'heure, c'était celle des internautes face à une entreprise qui aimerait contrôler son image. Et là, c'est la liberté d'expression qu'il faut garantir aux politiques de quelque parti soit-il. Intéressant aussi cette histoire du board éthique. Mais alors, encore une fois, ça pose plein de questions incidentes. Hein. Ce board, il aurait quel pouvoir ? Juste de consultation ? Ou alors un pouvoir de contrainte ? Et est-ce qu'on peut vraiment déléguer à des gens extérieurs à l'entreprise ce type de réponse ? Je sais pas, moi. Ça me semble assez compliqué, pratiquement. Bon, du coup, j'insiste. Pour l'instant, ce board n'est pas mis en place. Donc, comment Charles trancherait la question de Zemmour pour garder cet exemple ?
Par défaut, je protégerai l'ensemble des politiques, d'accord, peu importe leur parti, jusqu'au moment où soit ils ont été condamnés par la justice à multiples reprises, ou soit eux-mêmes sont à l'origine de raids haineux envers d'autres partis politiques et des attaques directes assez violentes.
Parenthèse. En écoutant Charles, je me pose une question annexe. Ça existe, la légitime défense en ligne ? Est-ce qu'on peut accepter que quelqu'un soit insultant en retour ? Et d'ailleurs, que fait Bodyguard si quelqu'un qu'il protège devient insultant ? Ou alors si deux personnes qu'il protège se mettent à s'insulter l'une l'autre ? Est-ce qu'on vire l'une des deux ? Et alors, sur quels critères on choisit celle qu'on va virer? Magnifique question. Bon, encore une fois, je ne crois pas que ce soit tranché. Je reviens à quelque chose que Charles a dit tout à l'heure. Il a parlé de l'enjeu démocratique. Bon, j'avoue que sur le moment, la manière un peu grandiloquente dont il a utilisé le terme m'a fait marrer intérieurement. Je veux bien que les problématiques de la modération engagent la liberté d'expression, je sais bien que derrière les questions de liberté d'expression, la démocratie pointe toujours, mais le lien ne me semble pas aussi direct qu'a l'air de le dire Charles. Donc, je lui demande de préciser, et c'est Majdi qui répond.
Des communautés ou des groupes politiques partent de Twitter pour être dans des réseaux type Telegram ou des groupes fermés, là où on n'a plus aucune vision sur quel est le contenu qui est partagé. La modération de facto se fait par les propriétaires de ces groupes-là. Et en fait, on se rend compte que c'est très compliqué derrière de protéger les personnes sur ce type de réseau.
Et y compris avec WhatsApp dans certains...
Exactement, Telegram, WhatsApp. Et là, tu te poses la question de... Est-ce que tu veux pas au contraire laisser un peu plus de liberté d'expression pour garder ces communautés-là sur une plateforme contrôlable et contrôlée et visible comme Twitter? Ou est-ce que tu veux que ces personnes-là migrent sur des groupes non contrôlables, non contrôlés, sur du Telegram où là, t'as aucune visibilité? Là, c'est extrêmement grave.
Très intéressant, ça. Il y a, en effet, un enjeu essentiel à ce que le débat reste public. Parce qu'une fois que la haine se déverse dans des messageries qui sont entièrement administrées par leurs créateurs, un groupe WhatsApp par exemple, c'est absolument invisible et incontrôlable, y compris quand il s'agit juste de protéger quelqu'un. Donc on peut tout à fait tenir la position de Charles, trop modérer les réseaux ouverts, c'est pousser vers les réseaux sociaux fermés. Le raisonnement se tient. Puisqu'on parle des grandes plateformes ouvertes, il me semble qu'il y a à nouveau toute une série de questions qui se posent et qu'on n'a pas encore abordées. Encore des questions. Pour pouvoir faire un travail de garde du corps en ligne, il faut être au plus proche de la personne qu'on protège. Pour le dire autrement, il faut avoir accès à ses comptes. Ça nécessite évidemment que la personne qui veut être protégée autorise cet accès. Mais ça nécessite aussi que Bodyguard demande au réseau social l'autorisation d'utiliser son API, c'est-à-dire les outils et les données que les plateformes mettent à disposition des développeurs extérieurs pour qu'ils puissent travailler. Et là, j'aimerais savoir concrètement comment ça se passe.
Tu dois envoyer ton application et ton usage à vérification, okay, et eux autorisent derrière l'accès à leur plateforme. Et une fois que tu as accès à leur plateforme, derrière, c'est toi qui choisis les autorisations que tu demandes à l'inscription. Et donc, par exemple, sur Instagram, on a demandé l'autorisation de récupérer les commentaires et de les supprimer. Donc derrière, on ne peut pas poster n'importe quoi avec le compte de la personne. On a un autre problème sur Twitter actuellement. Étant donné qu'on utilise la version Twitter V1 qui date d'il y a 15 ans, c'est soit tu demandes les deux autorisations de lecture, soit tu demandes les autorisations d'écriture. Okay. Les autorisations de lecture, comme leur nom l'indique, ça te permet de récupérer les tweets qui concernent et qui mentionnent l'utilisateur qu'on protège, l'information du profil, etc., etc. Les autorisations d'écriture, ça te permet de bloquer les personnes, ça te permet de poster des tweets avec le compte de la personne, et tu l'as compris, le problème, c'est ce deuxième point. Ouais. C'est que, parfois, c'est un frein. Parce que les gens se disent, mais alors attends, je comprends pas, Bodyguard, c'est censé me protéger, mais là tu me demandes le droit de publier un tweet avec mon compte, comment ça se passe?
C'est marrant parce qu'au fond, on retombe sur les problématiques de la garde rapprochée physique. C'est intrusif, un garde du corps physique comme un garde du corps en ligne. Alors, le cas de Twitter est frappant. Certes, Bodyguard va bientôt passer à la V2 de l'API de Twitter, ce sera moins intrusif, mais enfin quand même, c'est intrusif d'avoir une entreprise qui surveille constamment ce que je dis, ce qu'on me dit et ce qu'on dit de moi. J'en reviens à la question technique. Chaque réseau social a des fonctionnalités techniques différentes et ça affecte nécessairement la qualité du travail de modération qu'on peut effectuer. Et parmi les réseaux avec lesquels Majdi et Charles travaillent, quel est le plus compliqué à modérer?
Peut-être Twitch.
Je dirais YouTube. Hein.
En fait, Twitch, c'est différent. C'est que donc Twitch, c'est un réseau social généralement où on fait du streaming live. Et en fait, ils ont ce qu'ils appellent des bots de modération. Et donc, en fait, il faut inscrire Bodyguard en tant que bot de modération. Donc, ça rajoute une étape. C'est un petit challenge technique, mais c'est pas plus compliqué que ça. Mais c'est vrai que YouTube, c'est...
Si tu veux protéger les lives de tes utilisateurs sur YouTube, YouTube ne te prévient pas dès qu'un utilisateur lance un live. Donc c'est toi qui es obligé de vérifier toutes les deux minutes si l'utilisateur est en live. Mais en plus de ça, t'as un système de quotas. Et donc tu dois respecter un certain quota par jour. Donc tu peux pas faire le nombre de requêtes que tu veux. Donc derrière, tu dois trouver des petites optimisations. Enfin bon, c'est...
Ah, c'est passionnant ça. C'est là qu'on voit que la modération, c'est pas qu'une question sémantique ou même juridique. Hein. C'est un problème technique. D'ailleurs, avec Charles et Majdi, on a continué l'énumération des différences entre les réseaux sociaux.
T'as d'autres boîtes comme TikTok qui ne donnent pas d'accès tout
court. Et TikTok, c'est un bon exemple, c'est qu'aujourd'hui, nous, pour faire de la veille technologique sur quels sont les nouveaux types de commentaires qu'on voit sur TikTok, on est obligé de contourner un peu le système pour ce qu'on appelle scraper, c'est-à-dire récupérer les messages qui sont publics.
Du scrapping illégal.
Ah ouais. Alors justement, la question c'est, ce que vous faites, c'est complètement clean vis-à-vis de...
Oh, c'est vrai, non, pour le coup, toutes les bodyguards ont été validées par l'ensemble des plateformes.
Y compris TikTok
et, non, alors, non.
Charles a l'air un peu gêné là, mais en fait, il n'y a pas vraiment de quoi. On le sait, à la différence des autres grands réseaux sociaux, TikTok est une entreprise chinoise, et donc encore moins ouverte qu'un Facebook ou un YouTube. Et pour le moment, les fonctionnalités de son API ne permettent que de faciliter la création de contenu, rien pour que les développeurs créent des services, et notamment en termes de modération. Mais un jour, ce sera possible, pensent Charles et Majdi. Et donc, le travail de veille que raconte Majdi, qui passe par le scrapping, est en fait une manière de se préparer à ce jour. Pour voir comment on échange sur TikTok, quels sont les contenus problématiques, comment ils se formulent, comment sont utilisés les emojis, etc. Donc voilà, TikTok n'a rien validé parce que pour le moment, il n'y a pas lieu de valider quoi que ce soit. Et d'ailleurs, s'agissant des autres réseaux sociaux, je me demande si les validations exigées pour utiliser l'API sont faciles à obtenir.
Depuis le scandale Cambridge Analytica, ils sont beaucoup plus stricts sur les accès qu'ils autorisent aux développeurs. Voilà. Et pour avoir un accès développeur, limite, ils sont venus dans ma chambre et voir si tout allait bien, quoi. C'est-à-dire que j'ai dû envoyer un nombre de dossiers incalculables, j'ai dû faire des calls avec eux, enfin, c'est l'enfer. Mmh. Et dès que tu demandes une nouvelle autorisation, t'es obligé d'expliquer pourquoi, limite montrer le code, parfois.
Ils ont un accès à la plateforme et ils vont vraiment...
Ils ont un accès à la plateforme.
Quand je dis accès à la plateforme, c'est voir ce qu'on propose aux utilisateurs.
Ils veulent des comptes de test, voilà. Ils veulent vraiment revivre l'expérience.
Un exemple typique, c'est que c'est arrivé il y a un mois et demi, mais on avait changé d'adresse. On était en train de faire une migration technique. Facebook, comme ça a changé, n'était plus sûr. Et donc, en fait, pour valider que c'était bien nous, il va juste s'assurer qu'on ait bien le service derrière et qu'on n'a pas juste créé des accès pour faire quelque chose qui n'était pas en accord avec le contrat initial.
Et ça a suspendu l'application pour 7 jours.
Autrement dit, la dépendance vis-à-vis des réseaux sociaux est immense. Dépendance technique, mais aussi une forme de contrôle. Les réseaux sociaux veulent savoir tout ce que fait Bodyguard. Alors, on peut avoir une lecture optimiste de ce contrôle. C'est ce que dit Charles quand il explique que les réseaux sociaux sont devenus plus vigilants depuis le scandale Cambridge Analytica. À l'époque, Facebook n'était pas très regardant sur ce que faisaient les entreprises avec les données qu'ils laissaient disponibles. Et Cambridge Analytica en a profité pour faire, à partir des données de Facebook, un ciblage de messages politiques ultra précis, enfin c'est ce qu'ils disent en tout cas, en faveur du Brexit d'abord, puis en soutien de la campagne de Trump ensuite. Alors on peut tout à fait trouver vertueux que Facebook ainsi que les autres réseaux sociaux fassent plus attention aujourd'hui. Mais on peut aussi considérer que ce contrôle qu'exerce Facebook sur une boîte comme Bodyguard, c'est une manière de continuer à imposer ses propres standards de modération. Et puis, je me demande si Charles et Majdi ne craignent pas qu'un jour, les grands réseaux sociaux leur ferment carrément l'accès.
C'est un peu triste ce que je vais dire, mais bon, on rentre dans ce monde-là. Maintenant, la modération, c'est un sujet business pour ces plateformes-là. Okay. Et tout ce qui touche au business, généralement, ils laissent les accès développeurs.
Ce que veut dire Charles, donc, c'est que pour des raisons économiques, les grands réseaux préfèrent que les gens restent chez eux, bon, y compris des marques et des entreprises, que pour ça, il vaut mieux que ces gens se sentent bien. Or, comme ils ont du mal à faire en sorte que ces gens se sentent bien, ils sont ravis que d'autres fassent le travail. Néanmoins, ça ne diminue pas la dépendance. Charles en est conscient et il cherche à étendre son modèle à d'autres clients. Par exemple, les services qui accueillent en leur sein des espaces de discussion qu'il faut aussi modérer, c'est le cas de certains jeux vidéo. Parce qu'il y a aussi des problèmes dans les conversations qui ont lieu à l'intérieur d'un jeu vidéo en ligne. Récemment, me disait Majdi, Riot Games a dû fermer un channel qui était très utilisé parce qu'il n'arrivait plus à le modérer. Bon, et là, quand il s'agit par exemple de modérer les discussions à l'intérieur d'un jeu vidéo, comment ça se passe ?
C'est le jeu vidéo qui va utiliser notre API pour que dès que quelqu'un écrit dans leur chat, ils nous l'envoient, ils attendent notre réponse et nous on leur dit ça faut publier ou pas publier.
D'accord. Là j'avais l'impression qu'on en avait quasiment fini avec tous les problèmes que ça posait. Et puis tout à coup un autre problème a surgi. Une entreprise qui fait un travail de modération comme Bodyguard se retrouve en possession d'un nombre gigantesque de données personnelles, celles de comptes qu'elle protège, mais pas seulement puisqu'il y a aussi tous les messages qui mentionnent ces comptes. Alors, j'aimerais bien savoir si c'est une question pour Charles et Majdi, les données personnelles, et comment ils la résolvent.
C'est clairement le sujet technique sur lequel on est aujourd'hui, sur l'anonymisation des données pour enrichir derrière notre intelligence interne et faire en sorte que les messages qu'on ait reçus soient décorrélés du contexte dans lequel on les a reçus. Et le second aspect, c'est tout l'aspect sécuritaire.
Ils sont où vos serveurs ?
Google Cloud à Bruxelles. On utilise Google Cloud comme service managé pour gérer la sécurité. Donc c'est toujours mieux de léguer la sécurité à Google plutôt que de la gérer en interne.
Ah ouais ?
Ouais.
Non, c'est vrai ?
Ouais, vraiment.
Ok, pourquoi c'est mieux ?
Bah parce qu'ils ont une expertise et c'est des génies sur la protection et la gestion de ces données-là, l'accès aux bases de données, etc. Et même, ils mettent en place des services auto-managés qui sont honnêtement fabuleux d'un point de vue protection.
Alors ça, c'est très très critique. Depuis l'instauration du Règlement général de protection des données personnelles en Europe, les serveurs d'une entreprise américaine qui sont installés en Europe sont soumis à la loi européenne. Or, on le sait, la loi européenne est autrement plus contraignante que la loi américaine en matière de protection des données personnelles. On pourrait donc considérer que les données récoltées par Bodyguard étant hébergées dans des serveurs de Google situés à Paris et à Bruxelles sont en sécurité. Mais, et c'est un gros mais, toutes les entreprises de la tech américaine sont soumises au Cloud Act, qui les oblige, si le gouvernement américain leur demande, à lui ouvrir leurs données, y compris si elles sont hébergées ailleurs qu'aux États-Unis. Bon, ça, Bodyguard le sait. Mais voilà, c'est un arbitrage. Les services proposés par Google sont manifestement exceptionnels. D'après Charles Majdi, il n'y aurait pas d'équivalent en Europe. Et puis c'est quand même mieux d'être chez Google que chez Amazon, selon eux. Mais bon, voilà, les données personnelles, c'est une autre question non réglée de la modération. Juste avant de les relâcher, j'ai une dernière question. C'est quoi leur défi en ce moment ?
Moi, il y a deux choses, c'est qu'en fait, on a de plus en plus de succès, donc du coup, on a un besoin de scalabilité, on a des problèmes de risque qui fait qu'on a trop de commentaires, trop de requêtes, trop de demandes, donc on est en train de migrer tout ça vers une infrastructure beaucoup plus scalable.
Au mois de mars, on va avoir plus de messages que pratiquement les 6 derniers mois qu'on a reçus chez Bodyguard. Donc ça, c'est une problématique vraiment de volume et de données. Et après, c'est pas forcément des problèmes, mais les challenges de l'audio et l'image et la vidéo, parce qu'il y a aussi la modération où on va envoyer des images où il va y avoir quelques objets, quelques décors qui vont derrière être extrêmement insultants. Et en fait, il y a de la créativité dans l'insulte qui fait un peu perdre confiance en l'humanité.
En fait, votre problème, c'est la méchanceté humaine. C'est ça, exactement. Ce que vous n'avez pas réglé, c'est la méchanceté humaine.
Malheureusement, il y en a toujours. Ouais,
et on parlait d'exemple, mais ce matin encore, il y a une enfant de 8 ans qui a fait une vidéo pour dire merci à Kylian Mbappé. Elle a eu des messages de haine. Et en fait, quand on se réveille et qu'on voit ça, on se dit que, justement, le problème, c'est vraiment la méchanceté humaine, parce que même dans des sujets où on se dit que, finalement, il va y rien avoir, on se rend compte qu'on est toujours aussi
surpris. Petite fille, Kylian Mbappé, etc., c'est le consensus absolu, a priori.
j'ai arrêté de regarder tout ça.
Ouais, c'est sûr. Il y a encore la vidéo, les images en général, et puis il y aura les deepfakes, et puis je sais pas quoi encore, enfin on n'en a pas fini. Bref, la modération, c'est une quête sans fin, sans doute assez désespérante. J'ai retrouvé la vidéo de la petite fille là, dont parle Majdi, petite fille qui est par ailleurs est malade. Je l'ai écoutée avec une question en tête. Comment une telle vidéo pouvait déclencher les commentaires infâmes qui ont été recensés ?
Coucou Kylian, à Paris et en France, il y a des millions de supporters qui, comme moi, t'aiment vraiment beaucoup. Alors s'il te plaît, reste au Paris Saint-Germain et continue de nous faire rêver encore longtemps. Je te fais plein de gros bisous, on t'aime.
On peut en effet se poser des questions sur la noirceur humaine. Mais contre ça, aucun algorithme, ni personne ne peut rien. Merci à Charles Cohen et Majdi Toumi d'avoir généreusement partagé aussi leurs doutes et leurs questions. À la prise de son, c'était Pierre Faucillon, au mixage Basile Bocquer et Benjamin Orgeret, réalisation Fanny Boyon. C'était Le Code a changé, un podcast proposé par France Inter en partenariat avec Faber Novel.